Bonsoir et bon début de semaine à tous. Lors d'un échange avec la diaspora congolaise de Belgique, samedi 11 octobre 2025, le président de la République, Félix Tshisekedi, dit s'opposer à tout dialogue avec les émissaires des agresseurs. Félix Tshisekedi a souligné, je cite, « On ne parle pas dialogue avec les émissaires des agresseurs. » Alors je dis, ça n'arrivera plus en tout cas, moins comme des gommes, comme tu, mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes actuels. » Fin des citations. Le chef de l'État a également demandé à tous ceux qui réclament le dialogue de nommer d'abord clairement l'agresseur et de le condamner. Quelle analyse faire des propos du président de la République, Félix Tshisekedi, devant la diaspora congolaise de Belgique? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 13 octobre 2025. Participe au débat Jean-Michel Kialongi, membre de l'Union sacrée de la nation et membre de la coordination du regroupement 2A. TDC, Mosaïque de l'UDPS, sous la coordination du professeur Chilumbaï Jean-Claude. Jean-Michel Kialongi, bonsoir. Jean-Michel Kialongi, bonsoir. Je crois qu'on l'a perdu, il est en ligne, il a fermé son micro. Jean-Michel Kialongi, merci d'ouvrir votre micro, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Aussi avec nous dans ce débat, Dieudonné Bolenga Tsenge, secrétaire général du Parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Monsieur Bolenga Tsenge, bonsoir.
Bonsoir, Madame, et bonsoir à tous les auditeurs qui vont nous suivre.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment, Trésor Kibangula. Il est analyste politique et directeur du pilier politique et Bouteli. À Goma, en Nord-Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocati.net, sur DSTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous. Votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
On ne parle pas dialogue avec les émissaires des agresseurs, alors j'ai dit, ça n'arrivera plus en tout cas, à moins qu'on me dégomme, qu'on me tue, mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas, parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans des problèmes actuels. Propos de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, devant la diaspora congolaise de Belgique, samedi 11 octobre 2025 à Bruxelles. Il a ouvertement désapprouvé toute idée de dialogue pour faire encore des brassages, mixages ou pour introduire les inféodés dans les institutions du pays. Le président congolais veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. On écoute Félix Tshisekedi, président de la République, dans ses propos recueillis par Grace Mzati.
Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires, des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêts des agresseurs. Ils ne parlent pas des intérêts des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus, en tout cas à moins qu'on me dégomme, on me tue, mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes ici. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui se sont terminées par des brassages, des mixage, des unions nationales ou que sais-je encore, et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi j'ai dit plus jamais, donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays, parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes, on peut en discuter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer, ça doit se terminer par des brassages et mixages. On introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça.
C'était là Félix Tshisekedi, président de la République, devant la diaspora congolaise de Belgique. Jean-Michel Kalungi, je rappelle que vous êtes membre de l'Union sacrée de la nation, membre et membre de la coordination du regroupement de Zabar TDC sous la coordination du professeur Jean-Claude Tshilumbayi. Comment vous interprétez la fermeté du président de la République, Félix Tshisekedi, de refuser tout dialogue avec cela qu'il qualifie d'émissaire des agresseurs?
Bonsoir Madame Kelly. Je voudrais préciser avant toute chose que le président de la République, dans ce message, il a tendu la main de brave, comme il a dit, à Paul Kagame, le président rwandais, qui est à la manœuvre depuis 3 décennies pour cette guerre que nous vivons dans la partie est de notre pays qui a causé plusieurs millions de morts de peuple congolais. Et au vu de l'expérience du président de la République et de la gestion du pays pendant cette période de guerre, nous nous retrouvons avec des généraux, avec des hommes en armes, avec des membres des services de sécurité et de renseignement qui se retrouvent être dépendants de l'ennemi, si on peut qualifier ainsi. Et cette situation nous amène à la perte de la gestion de certains territoires, à la perte et presque au sacrifice de nos vaillants militaires parce qu'il y a traîtrise au sein de l'armée. Donc, quand nous appelons au dialogue, nous devons circonscrire le dialogue. Nous allons au dialogue pour parler de quoi? Premièrement, il faudrait se dire que nous ne sommes pas dans une crise politique. Nous sommes dans une crise sécuritaire, nous sommes dans une guerre nous imposée par le voisin au détriment et en utilisant des citoyens congolais qui sont manipulés par nos voisins. Donc quand nous allons dans le dialogue, les institutions en place doivent être reconnues parce que le président de la République a gagné des élections, nous avons des institutions installées. Alors, quand nous allons dans ce dialogue, nous devons très bien savoir de quoi nous allons parler. Et comme le président le dit, il n'est plus question de mixage, il n'est plus question de tous ces mots que l'on nous a amenés pour nous retrouver avec des colonels, des lieutenants, des généraux qui, le jour où ils sont sanctionnés par l'État congolais ou par leur hiérarchie, ils sont nommés directement dans le pays en face.
Alors vous posez la question. Vous posez la question de savoir dialogue pour parler de quoi. On sait quand même que la présidence de la République ou le président de la République a mis en place une structure au niveau de la présidence qui travaille avec la CENCO et l'ECC pour justement préparer ce dialogue demandé par les églises, notamment catholiques et protestantes. Dans ces différentes réunions, je pense que le chef de l'État est informé de ce qui va se dire dans ce dialogue demandé.
Effectivement, quand la CEMCO s'est proposée, et depuis quelque temps, la CEMCO fait la communication sur le pacte social qu'elle voudrait mettre en place. Et la CEMCO a été reçue par le chef de l'État qui a présenté son projet. Le président a mis en place une commission qui travaille avec la CEMCO et du moment où tout sera formalisé selon la vision et selon la pensée du président.
On a du mal à vous suivre. Certainement un problème de réseau.
Allô?
Je suis difficilement Jean-Michel Kanoji. Vous avez la parole. Et donc, selon vous, ce dialogue doit se tenir selon la vision et la pensée du chef de l'État.
Effectivement, nous devons encadrer le dialogue pour que le dialogue ne permette pas l'intrusion de l'ennemi au sein des institutions et au centre du pouvoir étatique. Nous avons eu dans ce pays un chef d'état-major qui, quelques années après, est devenu chef d'état-major du pays voisin. Nous avons eu des généraux, le jour où ils sont sanctionnés, qui deviennent rebelles. Le jour où il est décédé, il est enterré sous le drapeau rwandais, alors qu'il était général en RDC. Donc c'est toute cette situation que nous devons contrôler, nous devons sécuriser l'État pour que l'ennemi ne se retrouve pas au sein des institutions et au cercle névralgique du pouvoir.
Alors une certaine
c'est ça la pensée et c'est ça la vision du président.
Alors, une certaine opinion pense que les propos du chef de l'État, c'est en quelque sorte un refus total de dialogue pour essayer de trouver une solution rapidement à la crise qui secoue le pays. Comment vous répondez à cela?
Je voudrais vous dire que cette crise sécuritaire nous est imposé depuis 1996. Cela fait 3 décennies. Et que nous sommes allés de dialogue en dialogue. San City, Nairobi, nous sommes allés partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes à Doha. Nous sommes allés à Washington. Le président de la République est allé partout. Il est le premier à vouloir dialoguer. Le président de la République n'est pas un vent-à-guerre. Le président de la République n'est pas un militaire qui voudrait voir le sang de son peuple ou le sang de son ennemi couler. Mais il est strict sur la protection de la souveraineté du territoire congolais. Nous ne pouvons pas avoir à la table des négociations, pendant que nous négocions, il y a tout le temps des pauses et on doit appeler le parrain voisin pour qu'il dicte la marche de la négociation. C'est ça le grand problème.
Alors,
nous avons signé un accord à Washington. Qu'en est-il de son application? Parce que le voisin ne veut pas que cette application, que cet accord soit appliqué. Et voilà pourquoi le président de la République a devant toute la communauté internationale brandi la main de brave pour dire « Je suis prêt à te serrer la main, mais tu dois arrêter. Tu dois retirer tes militaires du territoire congolais. Tu dois arrêter et donner mot d'ordre à tes sous-traitants qui sont de M23 de continuer à tuer le peuple congolais. Ce peuple de l'est du pays a tant souffert. Imaginez-vous, un enfant né en 1996, il n'a connu que la guerre, il n'a connu que les viols, il n'a connu que tous les désastres qu'il soit. Jusque quand?
Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'oppose à tout dialogue avec les émissaires des agresseurs. Qui sont ces émissaires des agresseurs? Est-ce qu'il fait allusion au M23 ou à toutes ces personnes qui veulent d'un dialogue inclusif en RDC?
Je voudrais vous dire ceci. Corneille Nangaa était président de la CENI. Du jour au lendemain, il a une armée qui sait faire face à l'armée congolaise. Quand est-ce qu'il a eu le temps de se former lui-même en stratégie militaire? Quand est-ce qu'il a eu le temps de s'équiper? Quand est-ce qu'il a eu le temps de recruter? Quand est-ce qu'il a eu le temps de planifier? Ce qui veut dire qu'il n'est qu'une marionnette qui agit pour le compte de ceux qui veulent continuer à piller le Congo, qui veulent continuer à vivre des richesses de Congo, qui nous imposent un génocide interne. C'est plus de 3 millions de morts. Est-ce que vous vous imaginez? C'est comme si on a rayé la population du Gabon.
Et donc il s'agit là du M23. Il s'agit là du M23.
Il s'agit effectivement du M23. Et au-delà de tout, il s'agit de tous les autres acteurs politiques qui ont du mal à pointer le M23 comme ennemi de la nation et qui applaudissent chaque victoire sur les terrains du M23. Il est anormal de se dire républicain, de se dire congolais et d'acclamer la victoire du M23 qui est une victoire de l'ennemi.
Alors, très rapidement, Jean-Michel Kalungi, le président exclut tout dialogue avec le M23, comme vous l'avez dit, émissaire des agresseurs, mais en même temps, le gouvernement est à Doha avec le même M23. Comment comprendre cela?
Il faudrait préciser. Le président n'exclut pas tout dialogue avec le M23. Il voudrait dialoguer avec les Congolais et parler du Congo. Mais il ne voudrait pas que pendant ce dialogue, que les Congolais qui se mettent à table puissent applaudir et trouver normal que nous puissions être envahis par l'ennemi, qu'ils puissent venir avec le cahier des charges de l'ennemi et que pendant les discussions, à chaque fois, nous devons arrêter les discussions. Merci. Parce qu'eux doivent consulter le voisin. Le
Merci.
Président
On
de la République
encore.
Veut que l'on parle congolais et que l'on puisse structurer le pays pour son développement.
Dieudonné Bolenge Tengue, secrétaire général du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition, comment vous avez, je dirais pas accueilli, ou quelle lecture vous faites du discours de Félix Tshisekedi devant la diaspora congolaise de Belgique, qui exclut tout dialogue avec les émissaires des agresseurs? Le chef de l'État demande à tous ceux qui réclament le dialogue de nommer d'abord clairement l'agresseur et de le condamner.
Merci, madame. Je crois que je salue mon interlocuteur, mon co-débatteur, en attendant que M. Kibangula soit là aussi.
Il est arrivé. Bonsoir, Trésor.
Bonsoir. Bon, je crois que je suis de ceux qui sont restés un peu dubitatifs sur les propos du président de la République. Mais je voudrais bien, en parlant, rester dans le contexte. Le président de la République s'est adressé à une portion de la diaspora congolaise en Belgique, je crois 24 heures après ça m'est tendu au président du Rwanda. Quand on voit un peu les trains qui a suivi le début du conflit actuel, les M23, lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019, il n'y avait pas de M23 sur le territoire congolais quelque part. Ça, le monde entier le sait. Et c'est le gouvernement où le président, et le président a dit que c'est arrivé quand même, mais à une certaine époque, qu'il était au courant, mais ce n'est pas lui qui a fait l'invitation. Quelqu'un du gouvernement aurait invité les M23 à Kinshasa. Ils sont restés un certain nombre de mois, on parle de 14 mois. Logés, nourris, blanchis. Il y aurait eu des accords. Ces accords n'ont pas été respectés et l'M23 a pris les armes pour entrer à Bounagana en novembre 2021. Ça fait 4 ans, nous allons. Novembre, c'est ici à côté. Je ne connais pas beaucoup de formations politiques dans notre pays dont les responsables aient manqué une déclaration condamnant l'agression. Je suis curieux de voir la liste de ceux qui n'ont pas condamné l'agression pour croire en ces propos. Parce que si nous cherchons des traces de déclarations, de condamnations, de dénonciations, il y en a plein. Alors, le contexte, c'est que la veille, le président de la République a tendu la main à son homologue, tendre la main. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? En tout cas, je considère qu'il voulait faire les premiers pas dans la recherche de l'apaisement sur ce conflit, dans la recherche d'une réconciliation.
À défaut de cela, en tout cas, les propos qui ont suivi donnent plutôt à penser qu'ils demandaient une sorte de grâce, une sorte de faveur. Parce qu'en disant, il vous suffit de donner l'ordre pour que tout s'apaise. Il a presque déifié le président du Rwanda. Malheureusement, ce qui a suivi, ça a été une claque. Et pour notre président, et pour nous tous, qui appartenons à la nation congolaise.
Allô? Monsieur Boleng Etengo, ne vous suis plus, vous avez fermé votre micro.
Oui, c'est peut-être ce qui a amené le président de la République à vouloir expliciter sa pensée lui-même devant les représentations de notre communauté nationale au niveau de la diaspora. Et en s'adressant aux compatriotes, le président dit qu'il ne veut pas un dialogue avec des émissaires, des agresseurs, tout ça. C'est un discours, c'est dit déjà entendu. Mais les Congolais attendent des solutions aux problèmes. Nous sommes de ceux qui avons dit que cette guerre ne sera pas gagnée devant le micro. On le dit depuis 4 ans. Mais les ministres de la communication, les ministres des Affaires étrangères, des députés, des sénateurs, des communicateurs, des porte-paroles de l'armée n'arrêtent de multiplier des déclarations.
C'est pour sensibiliser la population.
La ligne de front est allée bien au-delà de Bounagana avec 2 capitales provinciales du côté de ceux qui ont pris les armes. C'est ça la réalité. Et nos gouvernants ont sillonné le monde entier à faire des déclarations, à demander des condamnations, à demander... Mais la paix n'est pas revenue à Goma et à Bukavu. Ça, ce sont des faits vérifiables. Mais aujourd'hui, après avoir été à Washington, à Doha, à Luanda, à Nairobi, à Addis Abeba, partout, on revient au pied de celui qu'on a toujours présenté comme notre ennemi numéro un. Pour lui dire, dis seulement une parole et nous serons sauvés. Et on s'arrête pas là. On dit, s'il faut que ce problème trouve des solutions, il n'y a pas. Parce que les propos du président donnent à penser que il n'y a pas d'effort à faire de notre côté. Il n'y a pas de compromis à négocier. Il n'y a pas de concession à faire. On attend que celui qu'on a déchiré, donc, prononce une parole.
Alors, le président de la République a été clair à ce sujet. Il a dit, c'était pour prendre à témoin le monde entier que la RDC veut la paix et non la guerre.
Oui, madame. La RDC veut la paix et non la guerre. Mais il y a une façon. Quand il y a un conflit armé, on discute pour construire justement une solution commune au conflit. Parce qu'il y a au moins 2 parties en conflit. On n'attend pas de l'autre un miracle. C'est ça la réalité que, devant laquelle nous nous trouvons. Et de là, on fait une diversion auprès du peuple congolais. Il n'y aura pas de dialogue avec les comment dirais-je,
les émissaires.
Les inféodés, les émissaires, avant on les appelait les panthères et tout ça. Mais tout ça, c'est toujours en termes de discours. Ça fait 4 ans que les discours se tiennent, mais le problème n'est pas résolu.
Alors, vous qui réclamez le dialogue, c'est pour parler de quoi? Vous qui réclamez le dialogue, c'est pour parler de quoi, M. Boleng Etengo?
Nous sommes un parti qui avons choisi de soutenir l'initiative de paix qui était proposée par les 2 grandes confessions religieuses du pays. En l'occurrence, l'Église catholique et l'Église protestante, considérant que c'est dans un cadre de dialogue qu'on pourrait chercher
une solution commune aux différents aspects liés à ces conflits-là. Mais si ce format de dialogue n'est pas le bienvenu, ok. Ce que nous attendons du président de la République est simple. Qu'il fasse son devoir de celui qui conduit le destiné de la nation et qui nous ramène la paix. Le Rwanda a une population inférieure à 15 millions. Nous avons 100 millions. Ils ont une armée avec des effectifs de moins de 50 000 unités. Nous avons plus de 100 000. Ils ont un budget de l'armée peut-être proche du quart de celui de notre pays. Mais où est le problème? À quel niveau se situe le problème? Le problème est chez nous. Souvenez-vous de ce que disait le général Ouboya. Il y a des troupes au front à qui on donne à manger un jour sur deux. Et il n'a pas été contesté. Donc le problème est chez nous. Aujourd'hui, nous sommes revus à demander la paix. Tout en demandant la paix, nous disons bah, nous n'allons pas dialoguer. On va dialoguer avec l'agresseur, pas avec ce que nous croyons pouvoir lui ressembler dans le cadre de la nation congolaise. Il y a comme une immense contradiction. J'ai l'impression que le président de la République et ceux qui partagent sa position, la position en tout cas telle qu'elle a été exprimée ici, ne veulent pas de la paix pour la globalité de la nation congolaise.
Merci.
Ils veulent une paix de caste, une paix pour les clans, à leurs conditions, telles qu'ils la veulent. Les autres n'ont rien à dire, ils n'ont qu'à attendre ce qu'on va leur amener comme effet. Mais ça ne fonctionnera jamais.
Merci, M. Bolingetenga. En regardant encore dans cette émission, le temps pour nous de donner la parole à Trésor Kibangula. Bonsoir, Trésor, qui est analyste politique et directeur du pilier politique à Ebouteli. Quelle pourrait être la portée réelle de cette déclaration de Félix Tshisekedi devant cette diaspora congolaise de Belgique?
Oui, je pense que c'est important de recontextualiser les choses. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un président qui veut incarner la paix, mais qui a du mal à aller au bout de sa logique. Jeudi, il a tendu la main à son homologue rwandais Paul Kagame, mais Kigali l'a mordu. Et en même temps, il a demandé la suspension de son plaidoyer sur des sanctions contre les Rwandais. Mm-hmm. Pour moi, c'est quand même un geste fort, un signal d'ouverture, d'apaisement, mais qui n'a pas été accueilli comme tel à Kigali. Ça pose beaucoup de questions sur notre capacité aussi en tant que nation, ou en tant que, en tout cas, la capacité du régime à anticiper. Quand est-ce qu'on a levé l'option de suspendre ces plaidoyers des sanctions sur le Rwanda? Est-ce que dans la salle, ou est-ce que c'est une option qui a été discutée à Kinshasa avant d'arriver à Bruxelles, où on a senti l'ambiance de la salle, on a dit ben c'est le bon moment pour sortir cette carte? Donc ça pose beaucoup de questions. Mais c'est aussi les contrastes dans la manière de diriger, ou le style du président de la République. Je pense qu'il y a beaucoup de spontanéité, mais souvent de l'improvisation. Et je trouve que c'est quand même très délicat pour un pays qui est en conflit. Et de l'autre côté, on a tendu la main sur le plan international à celui qui est identifié comme l'agresseur. Et en même temps, on verrouille toute possibilité de dialogue en interne. Et c'est là où il y a aussi l'incompréhension, parce qu'on ne peut pas dialoguer avec des gens avec qui on est d'accord. Et on dialogue toujours avec des voix discordantes. Sinon, ça devient un dialogue de l'entre-soi politique. Mm-hmm. Il faut trouver, appeler les Congolais avec qui on est en désaccord et essayer de discuter comment est-ce que on gère les frustrations, parce que j'ai entendu monsieur Jean-Marie Kalonji parler de l'encadrement du dialogue, mais il faut pas que le dialogue qui va se dessiner soit quelque chose qui est de nature à regrouper autour du chef les amis du chef ou les gens avec qui on a le même longueur d'onde. Donc il faut qu'on puisse avoir un débat de fond sur ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a le contenu de ces dialogues qu'il faut définir, mais je pense qu'il y a beaucoup de sujets à mettre sur la table, et la feuille des routes des évêques en dit déjà long. Vous avez rappelé que la présidence travaille aussi à travailler avec l'équipe des évêques. Je pense que ce serait très trompeur de considérer qu'il y a seulement une crise sécuritaire. C'est vrai qu'il y a eu des élections en 2023, mais il y a eu aussi des élections en 2018. Ce qui s'est passé en 2018, peut-être ça a créé des frustrations des uns et des autres. Est-ce que c'est pas un moment avec ce qui arrive à l'Est, Goma, Bukavu et une grande partie du Nord qui vous sous contrôle des troupes rwandaises M23, ça ne donne pas l'occasion de regarder comment est-ce qu'on renforce la cohésion en interne, parce qu'il faut peut-être rappeler à notre Jean-Marie Jean-Michel Kalonji, qu'il y a pas mal d'opposants aujourd'hui qui sont en exil des fêtes, qui n'arrivent pas à revenir sereinement au pays. Il y a pas mal d'opposants qui ont des épées de Damoclès sur la tête, ouverture d'enquête ici, libération conditionnelle là-bas. Donc il y a quand même une tension sur la scène politique internationale. Si on veut se présenter comme un homme de paix sur la scène internationale, il faut aussi essayer de trouver les voies et moyens d'instaurer un climat d'apaisement en interne. C'est ce qui manque et ce qui est un peu paradoxal dans la stratégie du chef de l'État.
Alors Félix Tshisekedi, président de la République, demande à ceux qui réclament le dialogue de nommer d'abord clairement l'agresseur et de le condamner. Est-ce que parmi les Congolais, il y a des gens qui n'arrivent pas à nommer clairement le Rwanda comme agresseur de la RDC?
Je pense que les Rwanda ou la guerre de l'Est, la guerre contre les Rwanda a été un sujet très mobilisateur pour les chefs de l'État. On l'a vu en 2023, il a battu campagne sur cette rhétorique de l'homme, le seul politique à même de se battre contre Paul Kagame et ses troupes. Et il y a eu certains candidats qui étaient très mal à l'aise à se positionner là-dessus. Je pense que M. Bolingeteng, il a rappelé, il y a très peu ou pas de politiques qui soutiennent, en tout cas dans l'opposition, qui soutiennent ouvertement l'agression rwandaise. Je pense que beaucoup ont eu, à un moment ou donné, critiqué cette agression. Mais ceci dit, ce n'est pas parce que on n'est pas avec le président de la République qu'on est forcément avec les Rwandais. C'est ça la grille d'analyse peut-être qu'il faut se mettre sur la table, c'est que on peut considérer que les gens ne soient pas d'accord sur la manière dont les régimes actuels mènent les discussions. Est-ce que c'est suffisant de parler avec le Rwanda à Washington? Est-ce que c'est suffisant de discuter seulement avec les M23 à Doha et de fermer toutes les portes? Est-ce que ceux qui sont à Doha sont le seul acteur de la crise? Parce que moi, je considère qu'il y a une double crise. Il y a à la fois la crise sécuritaire, visible, mais il y a une crise sous-jacente politique qui traîne depuis plusieurs années et qui nécessite que le Congolais puisse se regarder en face et adresser aussi cette crise. Aujourd'hui, on essaie d'esquiver et essayer de répondre seulement à la crise sécuritaire. Et les dangers de ça, c'est que ça va créer une sorte de radicalisation, parce que c'est très souvent lorsque la scène politique se polarise, ou bien on est avec les chefs, ou bien on est avec l'agresseur, ben ça va créer une radicalisation. Les gens vont se dire, ben pour se retrouver demain à Doha, ou avoir une place sur la table des négociations, il faut peut-être avoir un groupe armé, parce qu'on écoute qu'il y a des gens qui ont des armes. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à cette polarisation de la scène politique et essayer de tirer les leçons de cet enlisement de la situation, parce que de toute façon, que ce soit à Washington ou à Doha, les choses n'avancent pas.
Alors, on va prendre très rapidement, mais je signale que les auditeurs sont déjà en ligne, ils sont très nombreux à attendre d'intervenir dans cette émission. On va prendre très rapidement cet auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Ça sera pour vous, Trésor Kibangula, juste une brève réaction.
Charles Kivata, depuis Kinshasa. Donc, s'il faut tenir compte de ce que le président a dit tout à l'heure en Belgique, donc nous comprenons que même les négociations de Doha n'aboutiront à rien. Donc, les émissaires de M23, qui sont toujours considérés par le président de la République comme les supplétifs ou marionnettes du Rwanda, ne peuvent plus se présenter à Doha pour les négociations ou comment. C'est ce que nous voulons justement savoir.
Alors, Trésor Kibangula.
C'est ça les risques de double registre. Si on se présente d'un côté comme un homme de paix et on accepte de discuter avec le Rwanda, Washington et avec les M23 actuellement à Doha, et en même temps on entretient cet autre registre de fermeté envers la classe politique interne, ça crée un peu de confusion dans la stratégie, parce que lorsqu'on est aux affaires, lorsqu'on dirige un pays et que les pays dans cette situation avec d'un côté les opposants qui réclament un processus de discussion, et de l'autre, vous écoutez seulement à demi-mot, parce que les rapports de force aussi ont changé, il faut les dire, c'est pourquoi le président est à Doha, c'était la ligne rouge, il ne voulait pas discuter avec les M23, mais je pense qu'au-delà de ça, ce qu'il faut demander aujourd'hui au pouvoir, peut-être c'est d'avoir une politique de paix. Parce qu'aujourd'hui, la paix, j'ai l'impression qu'on essaie de le pousser par des formules, par des slogans. On ne sait pas vraiment c'est quoi notre politique de paix. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? Si on suspend aujourd'hui les plaidoyers des sanctions contre les Rwandais, c'est quoi la suite? C'est quoi la vision? Est-ce qu'il y a un calendrier ou est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce qu'il y a un plan de paix? Un plan de sortie des crises qui mène Kinshasa.
Merci. Après Kinshasa, direction Chabunda au sud Kivu pour écouter cet autre auditeur.
David Massandi Chabani, depuis Chabunda au sud Kivu. C'est le synonyme de refuser la cohésion nationale dont il a la responsabilité. La plupart des guerres se gagnent par les dialogues. En Afrique, les palabres sont les symboles de la sagesse. La paix doit d'abord se construire à l'intérieur pour mettre l'ennemi hors jeu. Préférez faire la paix avec le président rwandais qui ayant double face en abandonnant le processus interne est une exagération. Il est certes vrai qu'en RDC, personne n'est parfaite. Alors, les linges sales se lavent en famille. Le chef de l'État ne doit pas se faire induire en erreur en sacrifiant ses propres frères. Humeur du jour au jour. Diriger, c'est rassembler et non diviser.
Jean-Michel Kalongi, commentaire. Hein, soyez vraiment concis hein, par rapport aux propos de David qui nous a appelé depuis Chabunda. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je voudrais dire que le président de la République, chef de l'État, ne refuse pas le dialogue. Et si vous avez bien compris ce qu'il dit par la paix de brave, cela signifie qu'il n'y a pas un gagnant. Il a dit que c'est de dire que personne n'a gagné. Tu n'es pas faible, Kagame. Personne n'est faible. Mais serrons-nous la main. Arrêtons de tuer nos frères et sœurs, de tuer nos enfants. Arrêtons de tuer l'avenir de nos progénitures.
Alors, on est dans les dialogues.
C'est ce que le président a dit.
Voilà.
Le dialogue va se faire. Le président de la République est un homme de dialogue. Et il a bien dit que, parce qu'on commence à l'accuser partout que c'est un vent à guerre, alors que la guerre, ce n'est pas dans son ADN. Le président de la République n'est pas là pour voir le sang couler. Et voilà pourquoi il a tendu la main. Nous voudrions un dialogue. Mais le dialogue ne doit pas être toujours la source de nos problèmes. Tous nos problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est la conséquence de nos différents dialogues. Nous avons eu et l'ennemi, nous avons eu des étrangers, au cœur du pouvoir, qui travaille pour les pays voisins, et cela est fraudé par certains des Congolais. Il faudrait que nous disions non à travailler pour les voisins, nous mettre ensemble pour construire le pays. Et le président de la République est favorable au dialogue. Pourquoi?
C'est pour cela qu'il y a une commission à la présidence qui travaille
avec la CEMCO.
Dialogue avec ceux qui partagent sa vision.
Pas ceux qui partagent sa vision, ceux qui partagent la vision du Congo.
Merci.
Pas ceux qui veulent et qui travaillent pour l'ennemi. Comment est-ce que vous pouvez venir au dialogue, mais les membres de votre délégation sont étrangers? Comment est-ce que vous pouvez discuter du Congo, mais vous devez appeler le ministre des Affaires étrangères d'un pays voisin, vous devez attendre que le directeur de cabinet du président voisin puisse vous donner les injonctions et les éléments de langage pour dialoguer? Il y a un problème.
Merci.
Donc,
Jean-Michel.
Au lieu de dialoguer avec vous, nous devons carrément discuter avec l'agresseur.
Merci.
Et ce n'est pas nous qui le disons qu'il est agresseur.
Beaucoup.
Ça a été longuement documenté par les Nations Unies.
Merci Jean-Michel Kalongi. On va prendre ce troisième auditeur qui nous appelle de Bounia, dans la province de l'Ituri.
Allons des Piance Merveille, je vous appelle à partir de Bounia en Ituri. Les déclarations du président Félix Tshisekedi révèlent une position ferme et intransigeante face à la situation politique et sécuritaire à la République démocratique du Congo. Son refus de dialoguer avec ceux qui considèrent comme des agents des agresseurs souligne une volonté de ne pas céder à des compromis qu'il perçoit comme nuisibles. Cette approche traduit un désir de maintenir la souveraineté nationale et de ne pas légitimer des actes qu'il juge responsables des troubles actuels. En exhortant ses interlocuteurs à désigner clairement l'agresseur, il met à lumière la nécessité d'une prise de conscience collective avant toute négociation, ce qui pourrait renforcer son image de leader déterminé à défendre les intérêts du pays face à des influences extérieures.
Dieudonné Bolenge Tengue, qu'est-ce que vous pensez du point de vue de Merveille de Bounia en Ituri?
Moi, je voudrais pas que nous puissions avancer à reculons. Lorsque cette agression a commencé, pratiquement toutes les familles politiques l'ont condamné. Je me souviens que nous-mêmes, là, de l'opposition plurielle, nous avions obtenu la prise d'acte de notre demande de marche. Nous avions organisé une grande marche des opposants au départ du rond-point Ngaba, en passant par Kipwanza, Lemba, Échanger, jusqu'au stade de Tata Rafael. On était là, tous. Avec avec l'AMUKA, avec nous, avec LGD, tout ça. Donc, le principe de dénoncer les conflits armés, de dénoncer l'agression, je crois qu'on est, on ne sait pas y revenir. On ne sait pas aussi les garder comme une sorte de tourbillon permanent pour que chaque fois qu'il y a on veut une solution au problème, qu'on rappelle des vieilles rhétoriques qui ne nous font pas avancer. Le problème qui est là est que le pays est en crise. Et le pouvoir n'arrête pas d'un côté d'offrir des discours de pseudo-nationalisme et de l'autre de dilapider les ressources nationales au lieu de les utiliser à bon escient dans l'intérêt du peuple congolais. C'est cette incohérence-là qui donne à penser qu'il faudrait bien qu'autour d'une table que les Congolais tous ensemble, nous déterminions qu'est-ce que nous voulons exactement pour notre pays. Et heureusement que le jeune homme a appelé de Bounia. Lorsque les général Luboye avait dit là-bas que les militaires qui sont au front mangent un jour sur deux, 15 jours sur 30, et ce qu'on peut dire à ces militaires-là, eux, ils ne sont pas nationalistes, et ils ne combattent pas pour la nation. Non, nous avons des problèmes, des sérieux problèmes de mauvaise gouvernance qui font que même les ressources qui auraient pu nous mettre en situation de mieux défendre nos frontières prennent les larges, et c'est pas l'opposition qui les dénonce, ça sort toujours du côté du pouvoir. On ne peut pas être dans un pays où les autres doivent consommer des propos de diversion pendant qu'une autre portion de la République est en train de gaspiller le bien commun. C'est cela qui fait partie de la crise. Il s'agit d'une crise multiforme. La dimension sécuritaire est réelle, mais les questions de gouvernance publique, les questions d'économie du pays, les questions du social de la population. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la marque de notre pays dont nous, Congolais, nous pouvons être fiers? Absolument rien. Donc il ne suffit pas de mettre sur la place publique des discours pour que les problèmes soient résolus. Dès lors que les mois se succèdent, les années se succèdent, et la crise, même sous sa dimension sécuritaire, a tendance à s'aggraver, on continue à perdre des villes, des agglomérations et des villages. Ça veut dire que la solution n'est pas dans le schéma qu'on a choisi d'appliquer jusque-là. Il faut donc regarder ailleurs. Et regarder ailleurs, c'est aussi écouter les autres.
Alors, pour vous, Dieudonné Mbulenge Tenge, ce dialogue est important à l'interne, dialogue entre Congolais pour parler des problèmes ou de la crise que connaît le pays, crise multiforme, comme vous l'avez nommé vous-même.
Oui, je crois que le schéma du pacte social est pour la paix et le bien vivre ensemble proposé par les deux grandes confessions religieuses dans notre pays, et prévoit de travailler ainsi les dimensions internes de la crise, ainsi les dimensions externes, les bons voisinages, la coexistence, la coopération, l'intégration régionale, tout est dedans.
Alors, le président de la République...
Le dialogue, il y en aura un, mais pas avec tel, mais on est curieux de voir ces dialogues commencer.
Et justement, j'allais parler. Il y a des conditions.
D'être invité,
le président de la République.
D'être invité à ce dialogue et bien qu'il se retrouve pour que le problème de Congolais voit un début de solution.
Alors, aussi bien le problème. J'allais poser justement cette question. Le président de la République a donné des conditions pour l'organisation d'un dialogue entre Congolais. Vous allez suivre ces conditions, vous allez les respecter ou vous les rejeter?
Non, nous attendons voir de quelle manière. Vous savez que nous attendons du président de la République, c'est quoi? C'est la solution ou des solutions aux problèmes des Congolais, pas des discours. On a déjà assez parlé comme ça dans les pays. On ne peut pas développer seulement une culture du parler. Il faut des actes qui donnent à penser que là où il n'y avait pas d'infrastructures, les infrastructures sont arrivées. Là où il n'y avait pas d'emploi, les emplois arrivent. Là où il n'y avait pas de paix, la paix est là. L'aussi, ça doit trouver des solutions dans le format d'un discours de caste ou de clan que le président de la République a été organisé. Nous sommes curieux de voir, en tant que Congolais, quand les problèmes seront résolus. Nous en serons aussi des bénéficiaires. Mmh. Si on estime qu'on peut exclure quelques-uns, on peut les frustrer, ils ne méritent pas, ils ne sont pas des Congolais à part entière. Alors ça, on est curieux de voir. On veut juste des résultats.
Merci.
Pour que notre pays arrête d'être compté parmi les pays les plus pauvres du monde.
Merci.
Alors que nous avons un potentiel parmi les plus riches.
Merci Dieudonné Mbulenge Tenge, on va considérer cela comme votre conclusion, trésor, Kibangula aussi, votre mot de la fin, un dialogue avec des conditions. Est-ce qu'on va réellement aboutir? On va s'en sortir, le pays va s'en sortir.
Je pense qu'on peut comprendre une certaine méfiance de la part du président Tshisekedi lorsqu'il considère qu'il ne veut pas de dialogue qui va aboutir au mixage, au partage des pouvoirs et tout ça, tous ces dialogues précédents. Je pense que on peut le comprendre, mais justement, si on essayait de recadrer les processus de dialogue, que ce ne soit pas un dialogue des pouvoirs qui aboutit souvent à des partages des postes, des partages du gâteau, mais essayer, et c'est à mon sens, je pense que le président Tshisekedi a aujourd'hui une opportunité même de se poser comme le chef qui aura peut-être propulsé une idée de dialogue des sociétés. Comment est-ce qu'on arrive à repenser l'État congolais, comment est-ce qu'on arrive à propulser, à pousser, à impulser des réformes pour les Congos de demain? Est-ce qu'on va continuer à avoir des élections qui sont toujours contestées, qui ne sont pas crédibles? Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité de repenser des choses, de repenser la gouvernance? Je pense qu'il a une opportunité s'il veut vraiment se mettre à la hauteur des enjeux et s'il veut vraiment incarner cet homme de paix. Il a des cartes à jouer et non rester avec un discours un peu ambivalent, voilà, discuter avec les Rwandais, ne pas discuter avec les émissaires de l'agresseur, et en même temps on se retrouve à Doha et on s'interroge. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup s'interrogent sur la qualité ou les degrés d'influence de ceux qui sont à Doha par rapport à la situation sécuritaire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui sont aujourd'hui exclus des Doha, qui ont une influence sur ceux qui sont à Doha, qu'il faut essayer d'élargir cette table de discussion?
Jean-Michel Kalongi, une certaine opinion estime que les propos du président de la République, Félix Tshisekedi, n'aident pas à consolider l'unité nationale en excluant une certaine catégorie des Congolais. C'est une réaction qui est tombée tout à l'heure après votre intervention. Ces propos n'aident pas à consolider l'unité nationale. On ne peut pas organiser un dialogue avec des personnes qui vous sont favorables. Il faut réunir tous les Congolais. Brève réponse, hein, ça sera votre conclusion pour l'émission de ce soir. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, Jean-Michel Kalongi? Jean-Michel Kalongi?
Oui, Madame Kelly, je voudrais dire... Quel est ce Congolais qui peut se dire qu'il n'a pas été avec Félix Tshisekedi? Le FCC a été avec Félix Tshisekedi. Le président Kabila a été avec Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi, qui était contre Félix Tshisekedi en 2018, a été membre du gouvernement où l'ensemble pour la nation a été avec Félix Tshisekedi. Mais le problème au Congo, c'est que on n'est pas encore dans la culture démocratique. Quand on échoue aux élections, ou bien quand on n'est pas à même d'avoir ce que l'on exige du président de la République, on devient opposant. À un certain moment, on ne sait pas quand est-ce qu'on est membre du pouvoir ou de l'opposition. Aujourd'hui, parce qu'on est en contradiction avec le président Félix Tshisekedi, on va se faire photographier à Goma. Aujourd'hui, comment voulez-vous que le président de la République négocie avec l'ensemble pour la nation, alors qu'on voit les membres de l'ensemble pour la nation se prendre en photo et diffuser sur tous les réseaux sociaux avec les agresseurs, avec les membres de M23 ou bien avec le pays agresseur. Donc il y a toutes ces questions qu'il faudrait d'abord régler. Il faudrait que ces personnes puissent être honnêtes. On ne peut plus continuer à être en train de sillonner en dents de scie. Le matin, on est patriote. Le soir, on est avec l'ennemi. On est à la présidence. Le soir, on est dans la rue.
Merci.
C'est toute cette façon de vivre que le président de la République dit. Il faudrait que chacun puisse avoir une position claire.
Merci, Jean-Michel.
On ne peut pas continuer à être pour ou contre chaud et froid.
Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Enoch Kiatumbi, Jean-Claude Tiala, Jonathan Fonani, Alain Goy et... Nelson Nyombe, voilà, à la présentation, Kéline Couté, restez branchés sur la fréquence de la paix.